Chapitre 7. Blanchemont. Marcel, ayant embrassé la meunière et largement récompensé en cachette les serviteurs du moulin, remonta gaiement dans l'infernal patache. Son premier essai d'égalité avait épanoui son âme, et la suite du roman qu'elle voulait réaliser se présentait à ses yeux sous les plus poétiques couleurs. Mais le seul aspect de Blanchemont rembrunit singulièrement ses pensées, et son cœur se serra dès qu'elle eut franchi la porte de son domaine. En remontant le cours de la Vauvre, et après avoir gravi un mamelon assez raide, on se trouve sur le Tré ou Terrier, c'est-à-dire le tertre de Blanchemont. C'est une belle pelouse ombragée de vieux arbres, et dominant un site charmant, non pas des plus étendus de la vallée noire, mais frais, mélancolique, et d'un aspect assez sauvage, à cause de la rareté des habitations dont on aperçoit à peine les toits de chaume ou de tuiles brunes au milieu des arbres. Une pauvre église et les maisonnettes du hameau entourent ce tertre incliné vers la rivière qui fait en cet endroit de gracieux détours. De là, un large chemin raboteux conduit au château situé un peu en arrière, au-dessous du tertre, au milieu des champs de blé. On rentre en plaine, on perd de vue les beaux horizons bleus du Berry et de la Marche. Il faut monter au second étage du château pour les retrouver. Ce château n'a jamais été d'une grande défense. Les murs n'ont pas plus de 5 à 6 pieds d'épaisseur en bas, les tours élancées sont encore bellées. Il date de la fin des guerres de la féodalité. Cependant, la petitesse des portes, la rareté des fenêtres et les nombreux débris de murailles et de tourelles qui lui servaient d'enceinte signalent un temps de méfiance où l'on se mettait encore à l'abri d'un coup de main. C'est un castel assez élégant, un carré long renfermant à tous les étages une seule grande pièce avec 4 tours contenant de plus petites chambres aux angles et une autre tour sur la face de derrière servant de cage à l'unique escalier. La chapelle est isolée par la destruction des anciens communs, les fossés sont comblés en partie, les tourelles d'enceinte sont tronquées à la moitié, et l'étang, qui baignait jadis le château du côté du nord, est devenu une jolie prairie oblongue avec une petite source au milieu. Mais l'aspect encore pittoresque du vieux château ne frappa d'abord que secondairement l'attention de l'héritière de Blanchemont. Le meunier, en l'aidant à descendre de voiture, la dirigeait vers ce qu'il appelait le château neuf et les vastes dépendances de la ferme, située au pied du manoir antique et bordant une très grande cour fermée d'un côté par un mur crénelé et de l'autre par une haie et un fossé plein d'eau bourbeuse. Rien de plus triste et de plus déplaisant que cette demeure des riches fermiers. Le château neuf n'est qu'une grande maison de paysans, bâtie il y a peut-être 50 ans avec les débris des fortifications. Cependant, les murs solides, fraîchement recrépis et la toiture en tuiles neuves d'un rouge criard annonçaient de récentes réparations. Ce rajeunissement extérieur jurait avec la vétusté des autres bâtiments d'exploitation et la malpropreté insigne de la cour. Ces bâtiments sombres et offrant des traces d'ancienne architecture, mais solides et bien entretenues, formaient un développement de granges et d'étables, d'un seul tenant, qui faisait l'orgueil des fermiers et l'admiration de tous les agriculteurs du pays. Mais cette enceinte, si utile à l'industrie agricole et si commode pour l'emménagement du bétail et de la récolte, enfermait les regards et la pensée dans un espace triste, prosaïque et d'une saleté repoussante. D'énormes monceaux de fumier enfoncés dans leurs fosses carrées en pierre de taille et s'élevant encore à 10 ou 12 pieds de hauteur, laissaient échapper des ruisseaux immondes qu'on faisait écouler à dessein toute liberté vers les terrains inférieurs pour réchauffer les légumes du potager. Ces provisions d'engrais, richesse favorite du cultivateur, charment sa vue et font glorieusement palpiter son cœur satisfait lorsqu'un confrère vient les contempler avec l'admiration de l'envie. Dans les petites exploitations rustiques, ces détails n'offensent pourtant ni les yeux ni l'esprit de l'artiste. Leur désordre, l'encombrement des instruments aratoires, la verdure qui vient tout encadrer les cache ou les relève. Mais sur une grande échelle et sur un terrain vaste, rien de plus déplaisant que cet horizon d'immondice. Des nuées de dindons, d'oies et de canards se chargent d'empêcher qu'on puisse mettre le pied avec sécurité sur un endroit épargné par l'écoulement des fumeriou, les tas de fumier. Le terrain, inégal et pelé, est traversé par une voie pavée qui, en cet instant, n'était pas plus praticable que le reste. Les débris de la vieille toiture du château neuf étant restés épars sur le sol, on marchait littéralement sur un champ de tuiles brisées. Il y avait pourtant près de 6 mois que le travail des couvreurs était terminé. Mais ces réparations étaient à la charge du propriétaire, tandis que le soin d'enlever le déchet, de nettoyer la cour, regardait le fermier. Il se promettait donc de le faire quand les occupations de l'été auraient cessé et que ses serviteurs pourraient s'en charger. D'une part, il y avait le motif d'économiser quelques journées d'ouvriers, et de l'autre, cette profonde apathie du berrichon, qui laisse toujours quelque chose d'inachevé, comme si, après un effort, l'activité épuisée demandant au corps indispensable et les délices de la négligence avant la fin de la tâche. Marcel compara cette grossière et repoussante opulence agricole au poétique bien-être du meunier, et elle lui aurait adressé quelques réflexions à cet égard, si au milieu des cris de détresse des dindons effarouchés, pourtant immobiles de terreur, du sifflement des oies mères de famille et des aboiements de 4 ou 5 chiens maigres aux poils jaunes, elle eût pu placer une parole. Comme c'était le dimanche, les bœufs étaient à l'étable et les laboureurs sur le pas de la porte, dans leurs habits de fête, c'est-à-dire en gros drap bleu de Prusse, de la tête aux pieds. Ils regardèrent entrer la patache avec beaucoup d'étonnement, mais aucun ne se dérangea pour la recevoir et pour avertir le fermier de l'arrivée d'une visite. Il fallut que Grand Louis servît d'introducteur à Madame de Blanchemont. Il n'y fit pas beaucoup de façon et entra sans frapper en disant « Madame Bricoleur, venez donc, voilà Madame de Blanchemont qui vient vous voir !» Cette nouvelle imprévue causa un si vif saisissement aux 3 dames Bricolin qui venaient de rentrer de la messe et qui étaient en train de manger debout une légère collation, qu'elles restèrent stupéfaites, se regardant comme pour se demander ce qu'il fallait dire et faire en pareille circonstance. Et elles n'avaient pas encore bougé de leur place lorsque Marcel entra. Le groupe qui se présenta à ses regards était composé de 3 générations. La mère Bricolin, qui ne savait ni lire ni écrire et qui était vêtue en paysanne. Madame Bricolin, épouse du fermier, un peu plus élégante que sa belle-mère, ayant à peu près la tenue d'une gouvernante de curé. Celle-là savait signer son nom lisiblement et trouver les heures du lever du soleil et les phases de la lune dans l'almanach de Liège. Enfin, Mademoiselle Rose Bricolin, belle et fraîche, en effet, comme une rose du mois de mai, qui savait très bien lire des romans, écrire la dépense de la maison et danser la contredanse. Elle était coiffée en cheveux et portait une jolie robe de mousseline couleur de rose qui dessinait à merveille une taille charmante, un peu trop modelée par l'exagération du corsage et des manches collantes à la mode du moment. Cette ravissante figure, dont l'expression était fine et naïve à la fois, effaça chez Marcel le fâcheux effet de la mine aigre et dure de sa mère. La grand-mère, allée et ridée comme une campagnarde éprouvée, avait une physionomie ouverte et hardie. Ces trois femmes restaient la bouche béante. La mère Bricolin, se demandant de bonne foi si cette belle jeune dame était la même qu'elle avait vue venir quelquefois au château 30 ans auparavant, c'est-à-dire la mère de Marcel, qu'elle savait pourtant bien être morte depuis longtemps. Madame Bricolin, la fermière, s'apercevant qu'elle avait remis trop vite en rentrant de la messe un tablier de cuisine sur sa robe de mérinos marron, et Mademoiselle Rose, pensant rapidement qu'elle était irréprochablement vêtue et chaussée, et qu'elle pouvait, grâce au dimanche, être surprise par une élégante parisienne, sans avoir à rougir de quelque occupation domestique trop vulgaire. Madame de Blanchemont avait toujours été, aux yeux de la famille Bricolin, un être problématique qui existait peut-être, qu'on n'avait jamais vu et qu'on ne verrait certainement jamais. On avait connu monsieur son mari, qu'on n'aimait point parce qu'il était hautain et qu'on n'estimait pas parce qu'il était dépensier et qu'on ne craignait guère parce qu'il avait toujours besoin d'argent et qu'il s'en faisait avancer à tout prix. Depuis sa mort, on pensait n'avoir jamais à traiter qu'avec des hommes d'affaires, vu que le défunt avait dit maintes fois en produisant la complaisante signature de sa femme « Madame de Blanchemont est un enfant qui ne s'occupera jamais de tout cela et qui s'inquiète fort peu d'où lui vient l'argent pourvu que je lui en apporte. » Bien entendu que le mari avait coutume de mettre sur le compte des goûts dispendieux de sa femme les prodigalités qu'il faisait à ses maîtresses. On ne soupçonnait donc nullement le caractère véritable de la jeune veuve, et Madame Bricolin crut faire un rêve en la voyant tomber en personne au beau milieu de la ferme de Blanchemont. Devait-elle s'en réjouir ou s'en affliger? Cette apparition bizarre était-elle d'un bon ou d'un mauvais augure pour la prospérité des Bricolin? Venait-on réclamer ou demander? Tandis que, livrée à ses soudaines perplexités, la fermière examinait Marcel à peu près comme une chèvre qui se met sur la défensive à la vue d'un chien étranger au troupeau, Rose Bricolin, subitement gagnée par l'air affable et la mise simple de l'étrangère, avait eu le courage de faire deux pas vers elle. La grand-mère fut la moins embarrassée des trois. Le premier moment de surprise dissipé, et sa tête affaiblie ayant fait un effort pour comprendre qui elle avait affaire, elle s'approcha de Marcel avec une brusque franchise et lui fit accueil à peu près dans les mêmes termes, quoique avec moins de distinction et de grâce, que la meunière dans Gibault. Les deux autres, un peu rassurés par l'air doux et bienveillant avec lequel Marcel leur demanda l'hospitalité pour 2 ou 3 jours, ayant, disait-elle, à s'entretenir de ses affaires avec M. Bricolin, s'empressèrent bientôt de lui offrir à déjeuner. Le refus de Marcel fut motivé sur l'excellent repas qu'elle avait pris 1 heure auparavant au moulin d'Angibault, et c'est alors seulement que les regards des trois dames Bricolin se portèrent sur le grand Louis, qui se tenait près de la porte, causant farine avec la servante comme pour avoir prétexte à rester un peu. Ces trois regards furent très différents. Celui de la grand-mère fut amical, celui de sa belle-fille plein de dédain, celui de Rose incertain et indéfinissable, comme s'il eût été mêlé de l'un et de l'autre sentiment intérieur. « Comment ?» s'écria Madame Bricolin d'un ton dolent et railleur, lorsque Marcel lui racontait en peu de mots ses aventures de la nuit. « Vous avez été forcé de coucher dans ce moulin, et nous ne le savions pas. Et pourquoi cet imbécile de meunier nous a-t-il pas amené ici tout de suite? Oh mon Dieu, quelle mauvaise nuit vous avez dû passer, madame !»« Non, excellente, au contraire. » J'ai été traitée comme une reine, et j'ai 1000 obligations à M. Louis et à sa mère. « Ben, ça m'étonne pas, » dit la mère Bricolin. « La grand-marie est une si brave femme et tient sa maison si proprement. C'est mon ami de jeunesse à moi. Nous avons gardé les moutons ensemble, sous votre respect. Nous étions deux jolies filles dans ce temps-là, ce qu'on disait. Quoi qu'il paraisse plus, n'est-ce pas, madame? Nous n'en savions pas plus long que l'autre, mais filer, tricoter, faire les fromages, et voilà tout. Nous nous sommes mariés bien différemment. Elle a pris plus pauvre qu'elle est, moi j'ai épousé plus riche que moi. C'est l'amour qui a fait ces deux mariages-là, ça se voyait dans notre temps. Oh, à présent, on se marie que par intérêt, et les écus comptent plus que les sentiments. C'en est pas mieux, n'est-ce pas, madame de Blanchemont? Oh, je suis tout à fait de votre avis, dit Marcel. Et mon Dieu, ma mère, quel compte faites-vous là, madame? Reprit aigrement madame Bricolin. Croyez-vous que vous l'amusez avec vos vieilles histoires? Eh ben, niez, ajouta-t-elle d'un ton impératif. Allez donc voir si M. Bricolin est dans la garenne ou à son champ d'avoine derrière la maison. Vous lui direz de venir saluer madame. Monsieur Bricolin, répondit le meunier avec un regard clair et un air de bravade enjoué, n'est ni à son champ d'avoine ni à la garenne. Je l'ai aperçu en passant, qui buvait chopine et pinte avec monsieur le curé au presbytère. « Ah oui, dit la mère Bricolin, il doit être au précipitaire. Monsieur le curé a grand soif et grand faim après la messe, il aime qu'on lui tienne compagnie. Dis-moi, Louis, mon enfant, veux-tu aller le chercher, toi qui es si complaisant ?»« J'y vais tout de suite, dit le meunier, qui n'avait pas bougé à l'injonction de la fermière. Et il sortit en courant. « Si vous le trouvez complaisant, celui-là, grommela madame Bricolin en regardant sa belle-mère avec humeur, vous n'êtes pas difficile. »« Bon, maman, il ne faut pas dire cela, » dit d'une voix douce la belle Rose Bricolin. « Grand Louis a bien bon cœur. »« Mais qu'est-ce que vous voulez en faire de son bon cœur ?» riposta la Bricolin avec une irritation croissante. « Qu'est-ce que vous avez donc pour lui toutes les deux depuis quelque temps ?» « Mais maman, c'est toi qui es injuste avec lui depuis quelque temps, » répondit Rose, qui ne paraissait pas craindre beaucoup sa mère, habituée qu'elle était à la protection de son aïeul. « Tu le redois toujours, et pourtant tu sais que papa l'estime beaucoup. »« Toi, tu ferais mieux, dit la fermière, d'aller au lieu de raisonner, préparer ta chambre, qui est la mieux arrangée de la maison pour madame qui aura peut-être envie de se reposer avant l'heure du dîner. » « Madame nous excusera si elle n'est pas très bien logée ici. Ce n'est que l'année dernière que défunt Monsieur de Blanchemont a consenti à faire arranger un peu le château neuf, qui était quasi aussi délabré que l'ancien. Et c'est alors seulement que nous avons pu commencer à nous meubler un peu convenablement, au renouvellement de notre bail. Rien n'est terminé, les papiers ne sont pas encore collés dans toutes les chambres, et nous attendons des commodes et des lits qui ne sont pas encore arrivés de Bourges. Nous en avons aussi qui ne sont pas encore déballés. Oh, nous sommes vraiment sans dessus dessous depuis que les ouvriers ont tout bouleversé ici. » Les embarras domestiques que Madame Bricolin signalait ainsi par un discours de rigueur étaient absolument motivés, comme ceux que Marcel avait pu remarquer à l'extérieur de la maison. L'économie, jointe à l'apathie, faisait traîner les dépenses en longueur et reculait indéfiniment le moment de jouir du luxe qu'on voulait, qu'on pouvait et qu'on n'osait pas encore se permettre. La pièce triste et enfumée où l'on avait été surpris par la châtelaine était la plus laide et la plus malpropre du château neuf. C'était à la fois une cuisine, une salle à manger et un parloir. Les poules y avaient accès, à cause de la porte au rez-de-chaussée constamment ouverte. Le soin de les chasser étant une des occupations incessantes de la fermière, comme si l'état de colère et les actes de rigueur perpétuels où elle entretenait les récidives de la volaille eussent été nécessaires à son besoin d'agir et de châtier. C'est là qu'on recevait les paysans avec lesquels on avait des relations de tous les instants. Et comme leurs pieds crottés et le sang gêne de leurs habitudes eussent inévitablement gâté les parquets et les meubles, on n'y faisait usage que de grossières chaises de paille et de bancs de bois, posées sur des dalles nues et inutilement balayées 10 fois par jour. Les mouches, qui y tenaient court plénière, et le feu qui brûlait à toute heure et en toute saison dans la vaste cheminée, ornée de crémaillères de toutes dimensions, rendaient cette pièce fort désagréable en été. Et pourtant, c'est là que se tenait continuellement la famille, et lorsqu'on fit passer Marcel dans la pièce voisine, il lui fut aisé de voir que cette espèce de salon était encore vierge, quoiqu'il fût arrangé depuis un an. Il était décoré avec le luxe grossier des chambres d'auberge. Le parquet tout neuf n'avait pas encore reçu l'encaustique et le cirage. Les rideaux d'indienne voyantes étaient suspendus par leurs ornements de cuivre estampés d'un goût détestable. La garniture de la cheminée répondait à l'éclat et à la laideur de ces ornements prétendus Renaissance. Un guéridon fort riche, sur lequel on devait un jour prendre le café, avait tous ses bronzes dorés encore enveloppés de papier et de ficelles. Le meuble était couvert de housses à carreaux rouges et blancs, sous lesquels le damas de laine était destiné à s'user sans voir le jour. Et comme on ne connaît point encore dans ces fermes la distinction du salon avec la chambre à coucher, 2 lits d'acajou, non encore garnis de rideaux, étaient disposés en long, les pieds en avant vers la fenêtre, à droite et à gauche de la porte d'entrée. On se disait à l'oreille dans la famille que ce serait la chambre de noces de Rose. Marcel trouva cette maison si déplaisante qu'elle résolut de n'y pas demeurer. Elle déclara qu'elle ne voulait pas causer le moindre dérangement à ses hôtes et qu'elle chercherait dans le hameau quelque maison de paysans où elle pût prendre gîte, à moins qu'il n'y eût dans le vieux château quelque chambre habitable. Cette dernière idée parut causer quelques soucis à Madame Bricolin, et elle n'épargna rien pour en détourner son hôtesse. « Mais il est bien vrai, dit-elle, qu'il y a toujours au vieux château ce qu'on appelle la chambre du maître. Lorsque monsieur le baron, votre défunt mari, nous faisait l'honneur de passer par ici, comme il nous écrivait toujours d'avance pour nous prévenir de son arrivée, nous avions soin de tout nettoyer afin qu'il ne s'y trouvât pas trop mal. Mais ce malheureux château est si triste, si délabré. Les rats et les oiseaux de nuit font là-dedans un vacarme si épouvantable, et d'ailleurs les toitures sont en si mauvais état, et les murs si branlants qu'il n'y a vraiment pas de sûreté à y dormir. Je ne conçois pas le goût que monsieur le baron avait pour cette chambre. Il n'en voulait pas accepter chez nous, et on aurait dit qu'il se serait cru dégradé s'il eût passé une nuit ici, ailleurs que sous le toit de son vieux château. J'irai voir cette chambre, dit Marcel, et pour peu qu'on y puisse dormir à couvert, c'est tout ce qu'il me faut. En attendant, je vous supplie de ne rien déranger chez vous. Je ne veux en aucune façon vous être à charge. Rose exprima le désir qu'elle aurait au contraire à céder son appartement à Madame de Blanchemont, dans des termes si aimables et avec une physionomie si prévenante, que Madame Marcel lui prit doucement la main pour la remercier, mais sans changer de résolution. L'aspect du château neuf, joint à une répugnance instinctive pour Madame Bricolin, lui fit refuser obstinément l'hospitalité qu'elle avait fini par accepter de grand cœur au moulin. Elle se débattait encore contre les cérémonieuses importunités de la fermière, lorsque M. Bricolin arriva. Chapitre 8. Le paysan parvenu. M. Bricolin était un homme de 50 ans, robuste et d'une figure régulière. Mais l'embonpoint avait envahi ses membres ramassés, ainsi qu'il arrive à tous les campagnards à leur aise, qui, passant leur journée au grand air, à cheval la plupart du temps, et menant une vie active mais non pénible, ont juste assez de fatigue pour entretenir l'exubérance de leur santé et la complaisance de leur appétit. Grâce à ce stimulant d'un air vif et d'un exercice continuel, ces hommes supportent quelque temps sans malaise des excès de table journaliers, et quoique dans leurs occupations champêtres ils soient vêtus d'une manière peu différente des paysans, il est impossible de les confondre avec eux, même au premier coup d'œil. Tandis que le paysan est toujours maigre, bien proportionné et d'un teint basané qui a sa beauté, le bourgeois de campagne est toujours, dès l'âge de 40 ans, affligé d'un gros ventre, d'une démarche pesante et d'un coloris vineux qui vulgarisent et enlaidissent les plus belles organisations. Parmi ceux qui ont fait leur fortune eux-mêmes et qui ont commencé leur vie par la sobriété forcée du paysan, on ne trouverait guère d'exception à cet épaississement de la forme et à cette altération de la peau. Car c'est une observation proverbiale que lorsque le paysan commence à se nourrir de viande et à boire du vin à discrétion, il devient incapable de travailler et que le retour à ses premières habitudes lui serait infailliblement et promptement mortel. On peut donc dire que l'argent passe dans leur sang, qu'ils s'y attachent de corps et d'âme, et que la vie ou la raison doit fatalement succomber chez eux à la perte de leur fortune. Toute idée de dévouement à l'humanité, toute notion religieuse sont presque incompatibles avec cette transformation que le bien-être opère dans leur être physique et moral. Il serait fort inutile de s'indigner contre eux. Ils ne peuvent pas être autrement. Ils s'engraissent pour arriver à l'apoplexie ou à l'imbécillité. Leur faculté pour l'acquisition et la conservation de la richesse, très développée d'abord, s'éteignent vers le milieu de leur carrière, et après avoir fait fortune avec une rapidité et une habileté remarquables, ils tombent de bonne heure dans l'apathie, le désordre et l'incapacité. Aucune idée sociale, aucun sentiment de progrès ne les soutient. La digestion devient l'affaire de leur vie, et leur richesse si vigoureusement acquise est, avant qu'ils l'aient consolidée, engagée dans mille embarras et compromise par mille maladresses, sans parler de la vanité, qui les précipite dans des spéculations au-dessus de leur crédit. Si bien que tous ces riches sont presque toujours ruinés au moment où ils font le plus d'envieux. Monsieur Bricolin n'en était pas encore là. Il était à cet âge où l'activité et la volonté dans toute leur force peuvent encore lutter contre la double ivresse de l'orgueil et de l'intempérance. Mais il suffisait de voir ses yeux un peu bridés, son vaste abdomen, son nez luisant et le tremblement nerveux que l'habitude du coup du matin, c'est-à-dire les deux bouteilles de vin blanc à jeun en guise de café, donnait à sa main robuste, pour présager l'époque prochaine où cet homme si dispos, si matinal, si prévoyant et si impitoyable en affaires, perdrait la santé, la mémoire, le jugement et jusqu'à la dureté de son âme, pour devenir un ivrogne épuisé, un bavard très lourd et un maître facile à tromper. Sa figure avait été belle, quoique dépourvue absolument de distinction. Ses traits courts et fortement accentués annonçaient une énergie et une âpreté peu communes. Il avait l'œil vif, noir et dur, la bouche sensuelle, le front étroit et bas, les cheveux crépus, la parole brève et rapide. Il n'y avait point de fausseté dans son regard, ni d'hypocrisie dans ses manières. Ce n'était point un homme fourbe, et le grand respect qu'il avait pour le tien et le mien, au terme de la société actuelle, le rendait incapable de friponnerie. D'ailleurs, le cynisme de sa cupidité l'empêchait de farder ses intentions, et quand il avait dit à son semblable « Mon intérêt est contraire au tien », il pensait lui avoir démontré qu'il agissait en vertu du droit le plus sacré, et qu'il avait fait acte de haute loyauté en le lui annonçant. Demi-bourgeois, demi-manant, il portait le dimanche un costume mixte entre le paysan et le monsieur. Son chapeau avait la forme plus basse que celui des uns et les bords moins larges que celui des autres. Il avait une blouse grise à ceinture et à plis fermés sur sa taille courte qui lui donnait l'aspect d'une barrique cerclée. Ses guêtres exhalaient une odeur d'étable indélébile et sa cravate de soie noire était d'un luisant graisseux. Ce personnage, court et brusque, fit une impression désagréable sur Marcel et sa conversation prolixe, roulant toujours sur l'argent, lui fut encore moins sympathique que les prévenances désobligeantes de sa moitié. Voici quel fut à peu près le résumé du bavardage de 2 heures qu'elle eut à subir de la part de Maître Bricolin. La propriété de Blanchemont était chargée d'hypothèques pour un grand tiers de sa valeur. Feu Monsieur le Baron avait en outre demandé des avances considérables sur les fermages et avec des intérêts énormes que Monsieur Bricolin avait été forcé d'exiger vu la difficulté de se procurer de l'argent et le taux usuraire établi dans le pays. Madame de Blanchemont devait se soumettre à des conditions encore plus dures si elle voulait continuer le système auquel son mari avait été autorisé par elle. Ou bien, avant de demander les revenus, elle devait payer l'arriéré, capital et intérêt des intérêts, somme qui se vaut à plus de 7 000 francs. Quant aux autres créanciers, ils voulaient rentrer dans leur fonds entièrement ou garder leur créance entière à titre de placement. Il fallait donc vendre la terre ou trouver promptement des capitaux. En un mot, la terre valait 800 000 francs, elle était grevée de 400 000 francs de dette, sans compter celle encore envers M. Bricolin. Il restait 300 000 francs, unique fortune désormais de Mme de Blanchemont, indépendante de celle que son mari avait ou n'avait pas laissée à son fils, et dont elle ne connaissait pas encore la situation. Marcel était loin de s'attendre de si grands désastres. Elle n'en avait pas prévu la moitié. Les créanciers n'avaient pas encore réclamé et, bien nantis de leur titre, ils attendaient. Monsieur Bricolin, tout le premier, que la veuve s'informa de sa position pour lui demander le paiement intégral ou la continuation du revenu que l'emprunt leur assurait. Lorsqu'elle demanda à Bricolin pourquoi depuis un mois qu'elle était veuve, il ne lui avait pas fait connaître l'état de ses affaires, il lui répondit avec une brutale franchise qu'il n'avait pas de raison pour se presser, que sa créance était bonne, et que chaque jour d'indifférence de la part du propriétaire était un jour de profit pour le fermier, pendant lequel il cumulait les intérêts de son argent sans rien aventurer. Ce raisonnement péremptoire éclaira promptement Marcel sur le genre de moralité de M. Bricolin. « C'est juste, lui répondit-elle en souriant, avec une ironie que le fermier ne daigna pas comprendre. Je vois que c'est ma faute si chaque jour que je laisse s'écouler dévore plus que le revenu auquel je croyais pouvoir prétendre. » Mais dans l'intérêt de mon fils, je dois mettre un terme à cette espèce de débâcle. Et j'attends de vous, Monsieur Bricolin, un bon conseil à cet égard. » Monsieur Bricolin, très surpris du calme avec lequel la dame de Blanchemont venait d'apprendre qu'elle était à peu près ruinée, et encore plus de la confiance avec laquelle elle le consultait, la regarda entre les deux yeux. Il vit dans sa physionomie une sorte de défi malicieux porté par la plus parfaite candeur à sa cupidité. « Bon, je vois bien, dit-il, que vous voulez me tenter, mais je ne veux pas m'exposer à des reproches de la part de votre famille. Cela fait tort à un homme d'être accusé de complaisance intéressée à des prêts usuraires. Ben, il faut, madame de Blanchemont, que je vous parle sérieusement. Mais ici, les murs sont trop minces et ce que j'ai à vous dire n'a pas besoin d'être ébruité. Si vous voulez faire semblant de venir avec moi examiner le vieux château, je vous dirai, premièrement, ce que je vous conseillerais de faire si j'étais votre parent. Deuxièmement, ce que, étant votre créancier, je désire que vous fassiez. Vous verrez s'il y a un troisième avis à examiner, ou je ne le pense pas. Si le vieux château n'eût pas été entouré d'orties, de mares stagnantes et fétides, et de mille décombres mutilés qui n'avaient plus aucune autre physionomie que celle d'un désordre barbare, c'eût été un débris du passé assez pittoresque. Il y avait un reste de fossé avec de grands roseaux, de superbes lierres sur toute une face du bâtiment et un éboulement où des cerisiers sauvages avaient acquis un développement magnifique. Ce côté ne manquait pas de poésie. Monsieur Bricolin montra à Marcel la chambre que son mari avait coutume d'habiter en passant. Il y avait un reste d'ameublement du temps de Louis XVI, très malpropre et très fané. Cependant, cette pièce était habitable, et madame de Blanchemont résolut d'y passer la nuit. Cela contrariera un peu ma femme, qui tenait à l'honneur de vous recevoir dans ses meubles, dit monsieur Bricolin. Mais je ne connais rien de plus mal à propos que de tourmenter les personnes. Si le vieux château vous plaît, il ne faut pas disputer des goûts, comme on dit, et j'y ferai transporter vos effets. On mettra un lit de sangle dans ce cabinet pour votre fille de chambre. En attendant, je vais vous parler sérieusement de vos affaires, madame de Blanchemont. C'est le plus pressé. Et, tirant un fauteuil, Bricolin s'y installa et commença ainsi. D'abord, permettez-moi de vous demander si vous avez par devers vous une autre fortune que la terre de Blanchemont. Je ne crois pas, si je suis bien informé. Non, je n'ai à moi rien d'autre chose, répondit Marcel avec tranquillité. Et pensez-vous que votre fils ait à hériter d'une grosse fortune du chef de son père ? Je n'en sais rien. Si les propriétés de M. de Blanchemont sont aussi grevées que la mienne. Ah, vous n'en savez rien. Vous ne vous occupez donc pas de vos affaires. Ah, c'est drôle. Mais tous les nobles sont comme cela. Moi, je suis obligé de connaître votre position. C'est mon métier et mon intérêt. Or donc, voyant que feu monsieur le baron allait grand train, et ne prévoyait pas qu'il mourrait si jeune, j'ai dû m'assurer des brèches qu'il pouvait avoir faites à sa fortune, afin d'être en garde contre des emprunts qui auraient pu excéder un jour la valeur des terres d'ici et me laisser sans garantie. J'ai donc fait courir et fureter les gens du métier, et je sais à un sou près ce qui reste au jour d'aujourd'hui à votre petit bonhomme. Mais faites-moi donc le plaisir de me l'apprendre, monsieur Bricolin. Bon, c'est facile, et vous pourrez le vérifier. Si je ne me trompe de 10 000 francs, c'est tout le bout du monde. Votre mari avait environ 1 000 000 de fortune. Il reste cela au soleil, sauf qu'il y a 980 ou 90 000 francs de dettes à payer. Ainsi mon fils n'a plus rien ? Dit Marcel, troublé de cette révélation nouvelle. Comme vous dites. Avec ce que vous avez, il aura encore 300 000 francs un jour. C'est encore joli si vous voulez rassembler et liquider cela. En terre, ça représente 6 ou 7 000 livres de rente. Si vous voulez le manger, c'est encore plus joli. Je n'ai pas l'intention de détruire l'unique avenir de mon fils. Mon devoir est de me dégager autant que possible des embarras où je me trouve. En ce cas, écoutez, vos terres et les siennes rapportent 2%. Vous payez les intérêts de vos dettes 15 et 20%. Avec les intérêts cumulés, vous arriverez promptement à augmenter sans fin le capital de la dette. Et là, comment allez-vous faire? Il faut vendre, n'est-ce pas? Comme vous voudrez. Je crois que c'est dans votre intérêt, bien entendu, à moins que, pourtant, comme vous avez pour longtemps la jouissance du bien de votre fils, vous ne préfériez profiter du désordre et faire votre part. Non, monsieur Bricole, telle n'est pas mon intention. Mais vous pourriez encore tirer de l'argent de cette fortune-là. Et comme le petit a encore des grands-parents dont il héritera, il pourrait n'être pas banqueroutier à l'époque de sa majorité. C'est très bien raisonné, dit froidement Marcel. Mais je veux agir tout autrement. Je veux tout vendre afin que les dettes de la succession n'excèdent pas le capital. Et quant à ma fortune, je veux la liquider afin d'avoir le moyen d'élever convenablement mon fils. En ce cas, vous voulez vendre Blanchemont ? Oui, monsieur Bricolin, tout de suite. Tout de suite ? Oh, je le crois bien. Quand on est dans votre position et qu'on veut en sortir franchement, il n'y a pas un jour à perdre, puisque chaque jour fait un trou à la bourse. Mais croyez-vous que ce soit bien facile de vendre une terre de cette importance tout de suite, soit en bloc, soit en détail? Autant vaudrait dire que du jour au lendemain, on va vous bâtir un château comme celui-ci, assez solide pour durer 500 ou 600 ans. Sachez donc qu'au jour d'aujourd'hui, on ne remue de fond que dans l'industrie, les chemins de fer et autres grosses affaires, où il y a 100% à perdre ou à gagner. Quant aux propriétés territoriales, c'est le diable à déloger. Dans notre pays, tout le monde voudrait vendre et personne ne veut acheter, tant on est las d'enterrer dans des sillons de gros capitaux pour un mince revenu. La terre est bonne pour quiconque y réside, en vie, y fait des économies. Mais c'est la vie des campagnards comme moi. Mais pour vous autres gens des villes, c'est un revenu misérable. Ben, si donc un bien de 50, 100 000 francs ou plus trouvera parmi mes parents des acquéreurs empressés, et un bien de 800 000 francs dépasse légèrement nos moyens, et il nous faudra chercher dans l'étude de votre notaire à Paris un capitaliste qui ne sache que faire de ses fonds. Pensez-vous qu'il y en ait beaucoup au jour d'aujourd'hui? Quand on peut jouer à la bourse, à la roulette, aux zoulières, aux chemins de fer, aux places et à 1000 autres gros jeux, il vous faudra donc rencontrer quelque vieux noble peureux qui aime mieux placer son argent à 2% dans la crainte d'une révolution que de se lancer dans les belles spéculations qui tentent tout le monde au jour d'aujourd'hui. Mais encore faudrait-il qu'il eût une belle maison d'habitation où un vieux rentier pût venir finir ses jours. Ben, vous voyez votre château? J'en voudrais pas pour les matériaux. La peine de le jeter par terre ne vaudrait pas ce qu'on en tirerait de charpente pourrie et de moellons fendus. Ainsi donc, vous pouvez bien, en faisant afficher votre terre, la vendre en bloc un de ces matins, mais vous pouvez bien aussi attendre 10 ans. Car votre notaire aura beau dire et imprimer sur ses pancartes, comme c'est l'usage qu'elle rapporte 3 et 3,5, on verra mon bail, on saura que les impôts défalqués, elle ne rapporte pas 2. Mais votre bail a peut-être été conclu en raison des avances que vous aviez faites à monsieur de Blanchemont, dit Marcel en souriant. Comme de juste, répondit Bricolin avec aplomb. Et mon bail est de 20 ans. Il y en a un découlé, reste 19. Vous le savez bien, vous l'avez signé. Après cela, vous ne l'avez peut-être pas lu. Dame, c'est votre faute. Oh, si je ne m'en prends à personne. Donc je ne puis pas vendre en bloc, mais en détail. En détail, vous vendrez bien, vous vendrez cher, mais on ne vous paiera pas. Pourquoi cela? Parce que vous serez forcé de vendre à beaucoup de gens dont la plupart ne seront pas solvables, à des paysans qui, les meilleurs, s'acquitteront sou par sou à la longue, et les plus gueux qui se laisseront tenter par l'amour de posséder un peu de terre, comme ils font tous au jour d'aujourd'hui, et qu'il vous faudra exproprier au bout de 10 ans sans avoir touché de revenus. Cela vous ennuiera de les tourmenter ? Oh non, je ne m'y résoudrai jamais. Ainsi, monsieur Bricolin, selon vous, je ne puis ni vendre ni conserver. Si vous voulez être raisonnable, ne pas vendre cher et palper du comptant, vous pouvez vendre à quelqu'un que je connais. À qui donc ? À moi. À vous, monsieur Bricolin ? À moi, Nicolas Étienne Bricolin. Ah, en effet, dit Marcel, qui se rappela en cet instant quelques paroles échappées au meunier d'Angibault. J'ai entendu parler de cela. Et quelles sont vos propositions ? Je m'arrange avec vos créanciers hypothécaires, je démembre la terre, je vends à ceci, j'achète à cela, je garde ce qui est à ma convenance et je vous paie le reste. Et les créanciers, vous les payez comptant aussi ? Vous êtes énormément riche, monsieur Bricolin. Non, non, je les fais attendre, et d'une manière ou de l'autre, je vous en débarrasse. Mais je croyais qu'ils voulaient tous être remboursés immédiatement. Vous me l'aviez dit. Oui, ils seraient exigeants avec vous, mais ils me feront crédit à moi. Oui, c'est juste. Je passe pour insolvable, peut-être. Possible. Au jour d'aujourd'hui, on est très méfiant. Voyons, madame de Blanchemont. Vous me devez 100 000 francs. Je vous en donne 250 000 et nous sommes quittes. C'est-à-dire que vous voulez payer 250 000 francs, ce qui en vaut 300 000. Ben, c'est un petit boni qu'il est juste que vous m'accordiez. Je paie comptant. Vous direz que c'est mon avantage de ne pas servir d'intérêt ayant l'argent. C'est votre avantage aussi de palper votre fortune, dont vous n'aurez plus ni sous ni maille si vous tardez. Si vous voulez profiter des embarras de ma position pour réduire d'un 1/6 le peu qui me reste. C'est mon droit. Et tout autre que moi exigerait davantage. Soyez sûr que je prends vos intérêts autant que possible. Allons, mon premier mot sera le dernier, vous y penserez. Oui, monsieur Bricolin, il me semble qu'il faut y penser. Diable, je le crois bien. Il faut d'abord vous assurer que je ne vous trompe pas et que je ne me trompe pas moi-même sur votre situation et sur la valeur de vos biens. Vous voilà ici. Vous vous renseignerez, vous verrez tout par vous-même, vous pourrez même aller visiter les terres de votre mari du côté du Blanc, et quand vous serez au courant, dans un mois environ, vous me direz votre réponse. Seulement, vous pouvez bien résumer mes offres en établissant ainsi votre calcul sur une base dont je ne crains pas la vérification. Vous pouvez, premièrement, vendre ce qui vous reste de net le double de ce que je vous en offre, mais vous n'en toucherez pas la moitié, ou bien vous attendrez 10 ans, durant lesquels vous aurez à servir tant d'intérêts qu'il ne vous restera rien. Deuxièmement, vous pouvez me vendre à 1/6 de perte et toucher d'ici à 3 mois 250 000 francs en bon or ou en bon argent, ou en billets de banque, à votre choix. Alors, j'ai dit. Maintenant, revenez à la maison, dans une petite heure, vous dînerez avec nous. Il faudra faire chez nous comme chez vous, entendez-vous, madame la baronne. Nous sommes en affaires, et si vous ne me demandez pas d'autre pot de vin, ce ne sera pas grand-chose. La position où Marcel se trouvait désormais vis-à-vis des Bricolins lui ôtait tout scrupule et nécessitait d'ailleurs l'acceptation de cette offre. Elle promit donc d'en profiter. Mais elle demanda, en attendant l'heure du repas, à rester au vieux château pour écrire une lettre, et M. Bricolin la quitta pour lui envoyer ses domestiques et ses paquets.